Stéphane Rousseau, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous accueillir à l'occasion de la sortie du DVD, les confessions de Stéphane Rousseau chez TF1 Vidéo, en DVD, en Blu-ray depuis cette semaine. Un mot du spectacle, avant de parler d'ailleurs du spectacle qu'on va pouvoir découvrir ici à Limoges, ce sera dans quelques semaines. Le spectacle qui porte bien son nom, les confessions de Stéphane Rousseau, vous racontez vraiment dans des choses très intimes. Il y a un côté, il y a la philosophie dans le clin d'œil du titre, mais il y a un côté aussi thérapeutique peut-être dans ce spectacle.
Oui, probablement, parce que effectivement, je vais assez loin. Là, j'avais envie de me dévoiler, de me mettre à nu sur scène, sans se figurer évidemment, mais alors je raconte des petits secrets de famille, je me confesse de certains trucs, je parle des derniers instants de la vie de mon père, je parle de mon fils, un grand prématuré, je raconte plein de trucs perso. Et ça me fait probablement beaucoup de bien, mais je pense que le public aussi ressent une espèce de bien-être parce que les gens semblent s'identifier beaucoup à ce que j'ai vécu par moment. Alors, j'ai beaucoup de confessions de la part du public aussi aux dédicaces après les spectacles. Et je pense que ce spectacle m'aura permis de bien me présenter. Même si les gens me connaissaient déjà en France, ce spectacle donne une image peut-être plus vraie de l'homme derrière l'artiste de scène.
On parlait beaucoup de la famille, notamment, vous le disiez. C'est un équilibre très important, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans votre vie et dans votre carrière.
La famille, bien sûr, mais oui, très inspirante pour moi, parce que j'avais une famille un peu dysfonctionnelle, un peu particulière, mais qui avait beaucoup d'humour. Alors, on rigolait beaucoup à la maison. Donc, oui, ma famille, très importante, parce que je l'ai perdue. Alors, ils sont tous malheureusement décédés. Alors, évidemment que de parler d'eux sur scène, pour moi, c'est une façon de les garder en vie, puis de ne pas les oublier.
C'est un spectacle qui a été créé pour la France spécifiquement ou c'est un spectacle qui pourrait fonctionner exactement de la même façon au Canada où on ne rit pas forcément des mêmes choses?
Ben, je joue le spectacle au Québec aussi, mais effectivement, dans un premier temps, je l'ai écrit au Québec, mais en pensant à la France, parce que je savais que je devais revenir plus rapidement en France qu'au Québec, parce qu'au Québec, c'est quand même mon cinquième one-man show, tandis qu'ici, c'est mon troisième que je présente. Alors, je ne voulais pas me faire oublier. Hein? Alors, je suis revenu un peu plus rapidement ici. Et puis là, il me reste quand même 150 dates à jouer au Québec, une vingtaine de dates en France. Et c'est un spectacle qui marche bien des deux côtés, mais il y a certains numéros qui ont dû être adaptés et d'autres, pas du tout, comme je fais une espèce d'interview un peu prout-prout, une espèce d'intervieweur un peu avec des grands mots et tout ça. Puis ce sketch-là n'a pas été adapté du tout. Alors, il marche des deux côtés, mais pour des raisons différentes. Ici, on se paye la tête un peu du Québécois, puis là-bas, on se paye la tête un peu du Français.
C'est facile d'être sur ces deux, j'allais dire ces deux continents, en tous les cas, ces deux pays, pays de cœur, pays de sang, pour n'oublier personne, ne trahir personne?
Non, c'est compliqué. C'est un peu complexe parce que, des deux côtés de l'Atlantique maintenant, j'ai un accent. Alors, quand je reviens au Québec, on me dit que j'ai l'accent français. Ici, j'ai l'accent québécois. Je suis souvent loin de mon fils aussi. Ça, je trouve ça très difficile. Mais j'adore quand même ma vie. J'ai la chance de vivre des émotions fortes, de voyager beaucoup, de faire de très belles rencontres, de travailler et de bosser dans des endroits spectaculaires, de très beaux théâtres, de très beaux zéniths, de très belles villes partout en France, partout au Québec, en Belgique, en Suisse. Alors, je suis très choyé.
Alors, la particularité, on le dit, c'est que le DVD vient de sortir, mais la tournée se poursuit. Est-ce qu'on joue finalement différemment quand on sait que le public dans la salle a peut-être déjà vu le spectacle à la maison en DVD? Est-ce que ça oblige à modifier quelque chose? Est-ce que le public réagit aussi peut-être différemment?
Je ne sais pas, je vais vous dire ça très bientôt parce que ça ne m'est pas arrivé encore. En fait, au Québec, la tradition veut qu'on sorte le DVD après la tournée. Ici, souvent, on l'utilise comme outil de promotionnel. Aussi, on le sort en milieu de tournée. Même à une époque, on le sortait quand même assez, même au début de tournée. J'ai hâte de voir, mais j'espère que les gens ne diront pas les vannes avant moi, sinon je vais devoir en trouver de nouvelles. Mais j'ai hâte de voir parce que là, je vais recommencer la tournée dans deux semaines et demie, et je vais avoir vraiment le pouls du public, là, voir s'ils ont acheté le DVD ou s'ils ne l'ont pas acheté finalement.
Ce sera un bon baromètre aussi. Vous serez le 22 mars au Zénith de Limoges. Deux jours plus tard, c'est votre consoeur Véronique Dicker qui sera là. Comment on explique cet attachement, ce coup de foudre quasiment des Français pour les humoristes québécois et canadiens?
Ben, ça a pris un certain temps parce que l'humour, c'est pas ce qui voyage le mieux. Mais c'est vrai que Véronique Dicker a une ascension fulgurante. Elle a connu un succès instantané. Elle a beaucoup, beaucoup de talent, cette fille. Elle a des imitations d'une justesse incroyable. Et puis, je pense que, je sais pas, c'est peut-être un petit côté exotique, hein, notre de notre accent. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'on est de bons bosseurs aussi, puis on arrive avec nos petites particularités, avec nos petites différences, avec un spectacle des fois effectivement un peu à l'américaine. Alors, il y a un public ici pour ça.
Ah, c'est vrai, des vrais shows. En tout cas, sur scène, c'est ce qui vous rapproche. Pour terminer, un mot sur la chanson. On le sait, vous aimez pousser la chansonnette et c'est sans doute encore plus vrai dans ce nouveau spectacle-là, avec des artistes auxquels vous rendez hommage. En cinq chansons, cinq souvenirs pour vous. Si je vous demande, par exemple, le souvenir du premier artiste que vous avez acheté en CD, c'est un pas particulier. On choisit bien ce premier achat.
Ouais. J'ai peut-être mal choisi, moi, mon premier achat, mais c'était Billy Joel à l'époque, un album qui s'appelait Glass House. Et je me souviens pourquoi je l'avais acheté, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas trouver d'effet sonore. Et cet album en avait un. Moi, je cherchais un bris de verre, en fait, et il y avait ça sur cet album-là. Et c'est un peu pour ça, mais j'aimais bien l'artiste aussi, j'aimais bien, il y avait quelques tubes qui tournaient très bien à l'époque. Alors, j'avais acheté ce premier album. Ensuite, le deuxième, je pense, ça a été Pink Floyd. Là, c'était un meilleur achat, Dark Side of the Moon, un classique. Celui de Billy Joel est moins passé à l'histoire.
Mais il reste quand même dans la tête. La chanson qui peut-être pour vous représentait la France, vue du Canada quand vous n'étiez pas encore venu nous rendre visite. Votre vision de la France, c'était par quel artiste, par quelle chanson?
Oh, c'était Piaf avec... non, je ne regrette rien. Comment, c'est quoi le titre de... C'est ça. Hein? Alors ça, effectivement, Piaf est représenté tellement Paris. C'était et une carte postale aussi qu'on avait à la maison, une tante qui avait été faire un voyage ici en France, puis qui nous avait envoyé cette carte postale. Et on l'avait accrochée sur le mur avec la Tour Eiffel. Et mon père me disait ça, c'est la France.
Il y avait une envie, un rêve de venir, de visiter la France en tout cas, peut-être même pas pour y travailler, mais au moins pour y mettre les pieds.
Oui, tout à fait. J'aurais aimé que mon père ait la chance de visiter et de voir la France parce que il y avait beaucoup d'amis français, mon père et ma mère aussi. Puis ils n'ont jamais eu la chance de mettre les pieds ici. C'est un peu dommage.
Troisième titre sur un souvenir de concert, une chanson qui vous a marqué dans les concerts que vous avez pu voir, quelque chose qui scéniquement était bluffant peut-être ou qui au niveau de l'émotion vous a marqué.
Ben, je dois avouer que j'étais assez fan de Peter Gabriel, moi, à une époque, et je l'ai vu plusieurs fois en spectacle. Et il y avait une chanson, Biko, une chanson sur l'apartheid où tout le monde chantait. Il terminait le spectacle avec cette chanson-là. Et ce qui était fascinant, c'est qu'après, j'avais peut-être un trajet de 45 minutes de métro et les gens chantaient encore dans le métro. Et ça, c'était fascinant de voir tout ce stade se vider en chantant cette chanson qui résonnait partout dans Montréal. C'est un beau souvenir.
Vous aimeriez qu'on puisse faire la même chose avec un spectacle d'humoriste?
Oui, qu'on raconte mes blagues comme ça partout en sortant du théâtre, ça serait pas mal.
C'est évidemment un peu plus compliqué. Votre idole de tout gamin, avec la chanson qui pour vous est éternelle et ne sera jamais dépassée par aucune autre?
Mon Dieu, je dois avouer que c'est un auteur français, mais c'est un chanteur américain, c'est Frank Sinatra avec « My Way ». Alors, cette chanson-là, moi, ben, je trouve ça beau, en plus, « My Way »,« I did it my way ». Bon, les paroles en français, c'est complètement autre chose, hein, comme d'habitude, mais c'est une chanson qui à chaque fois, vient me chercher. Il y a un beau crescendo dans cette chanson-là, et... Elle inspire, elle donne envie de foncer, de faire à sa manière et de défoncer les portes et tout. Moi, elle me plaît toujours, cette chanson.
Et pour terminer, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Dans votre public, il y a quelques femmes. Hein. On peut le dire et on va le voir parce qu'il y a une rencontre de lecteurs et de lectrices qui arrive. Donc, on va voir que les femmes sont bien représentées. S'il y avait une chanson pour vous, la plus belle pour dire « je t'aime » ou qui met en valeur la femme d'une manière exceptionnelle, ce serait laquelle?
Moi, j'aimais beaucoup Unchained Melody qu'on retrouvait dans Ghost, entre autres. Là. C'est un peu cliché, puis mais c'est vraiment... J'aimais ces voix de l'époque qui étaient pas très masculines, mais très émouvantes. Et non, je trouve cette chanson, pour définir comme des chansons d'amour, je trouve qu'elle est vraiment très, très, très réussie, cette chanson-là.
Alors on rappelle qu'en tous les cas, sur scène, au Zénith, le 22 mars, c'est sur votre DVD. C'est ce cocktail-là, c'est humour, chanson, c'est toutes les facettes de Stéphane Rousseau finalement.
Tout ça dans un seul corps. Pour vous, mesdames. Non, non, mais venez avec vos mecs, hein, parce que je me fous un peu de la gueule des filles quand même dans ce spectacle-là. Vos chums, ça c'est l'expression québécoise, vos hommes vont y trouver leur compte aussi. On s'amuse bien. C'est la dernière fois qu'on passe avec ce spectacle. Alors, si vous avez envie de le voir en live, je vous attends.
Parce que c'est forcément autre chose que sur le DVD quand même, même si c'est un petit plus, on se le refait à la maison dans les jours suivants, mais c'est toujours autre chose sur scène.
Oui, ouais, forcément, bon, chaque soir est différent. Alors, sur scène, je pense que vous avez droit à un petit moment un peu plus privilégié où il peut se passer plein de choses et des petites impros souvent aussi.
Alors, rendez-vous le 22 mars et dans les bacs d'ores et déjà. Merci Stéphane Rousseau.
Merci à vous. Au revoir.